Ici l'ombre.
Le grand entretien. Par Laurence Bolomé.
Bonjour et bienvenue sous ce chapiteau de concertina. Je m'appelle Laurence et j'accueille Naja Al-Bukai. Je vais avoir de la peine à prononcer votre nom de temps en temps, pardon. Bienvenue aussi aux auditeurs et auditrices d'Ici l'Ombre, la radio éphémère qui accompagne concertina durant 3 jours. Et puis un salut encore aux auditeurs et auditrices de plusieurs radios locales et associatives qui relaient en direct ce grand entretien. Grand entretien donc qui est consacré aujourd'hui à Naja Al-Bukai. Bonjour.
Bonjour.
Vous prenez le micro volontiers.
Bonjour.
C'est mieux. Laurence.
Laurence, c'est plus facile que Naja.
Oui, absolument. Alors, vous êtes dessinateur et graveur. Vous avez 56 ans, ou en tout cas, vous les aurez en août. Vous êtes né en Syrie, à Homs. Vous avez étudié les beaux-arts en Syrie, puis en France, avant de revenir à Damas, faute de bourse universitaire française. On est en 1996. Je suis obligée de lire.
Pardon, qu'est-ce que vous venez de dire, là ?
Vous revenez à Damas, parce que vous n'avez plus de bourse universitaire, c'est bien juste.
Non, je suis venu sans bourse. Je suis venu avec les moyens de mes parents.
Sans argent, vous avez dû revenir à Damas parce que vous n'auriez pas pu continuer.
Puis j'étais amoureux de ma femme, qui est encore ma femme. On n'a pas pu rester en France. À l'époque, on ne savait pas qu'il y a des choses qui s'appellent l'exil. Et je ne pensais pas faire une demande d'asile politique. Parce que la Syrie, on était habitué à vivre en dictature, on s'habituait bien, donc...
Quand vous revenez en Syrie, vous avez 2 ans de service militaire obligatoire qui vous attendent, vous devenez ensuite enseignant à l'école des beaux-arts de Damas, et c'est à partir de là que votre parcours se dessine entre les murs des prisons, parce que le printemps arabe passe par là. En quelques mots, après celle de la Tunisie, de la Libye, de l'Égypte, du Yémen, la population syrienne se soulève également en 2011 contre son gouvernement, celui de Bachar al-Assad, et vous y participez. Est-ce que c'était votre premier acte politique ? Est-ce que vous étiez quelqu'un de politisé ou pas forcément ?
Non, pas du tout. Je suis né en 1970, à 2 mois après la chute, le putsch du général Assad, le père de Bachar al-Assad. Donc j'étais complètement noyé ou éduqué dans les idées du parti Baas, bien intégré. J'étais la génération qui a su bien développer une autocensure. Donc je ne pensais pas du tout. Je faisais des actes des bêtises, je l'appelle. Des fois d'abîmer un truc, déchirer une image, ou dans un acte politique, non.
Parce qu'il faut dire aussi que les études d'art sont marquées finalement par la propagande, par le militaire, etc. Donc tout en étant artiste, on n'est pas forcément un anarchiste ou quelqu'un qui va bousculer le gouvernement en quelque sorte au départ. On est d'accord avec ça.
Que les artistes peuvent bousculer.
Oui, mais que en même temps, quand vous faites des études, il y a beaucoup de propagande gouvernementale qui émaille les études.
Exactement. Et puis les années 80 et 90, avec l'arrivée des idées occidentales, et vous savez que les écoles de beaux-arts au Moyen-Orient, c'est une sorte de post-colonialisme. Donc on fait nos études autour de l'art. En Europe, en Occident, on commence nos études avec l'art classique, l'art de la Renaissance, et puis on s'arrête juste avec le Guernica, avec Picasso. Donc c'était juste de suivre, de courir avec les idées d'art qui arrivaient de l'Europe. Et puis tout ce qui est histoire de l'art... On a un petit peu d'idées sur l'art pharaonique, un peu d'idées sur l'art islamique. Et puis on devient un artiste qui rêve de venir continuer ses études en Europe.
En Europe,
et puis être un Picasso, un Van Gogh ou un Modigliani.
Très bien. L'année prochaine, on a Modigliani avec nous. Résultat de ces mouvements, vous subissez 4 arrestations, 21 mois en toute prison. Comment est-ce qu'on passe justement, comment c'est le choc entre une vie d'artiste finalement qui s'intéresse à la beauté et soudain détenu dans des conditions abominables, on peut dire?
Ben, comme je vous ai dit que je suis né avec un régime totalitaire, et j'ai fait 2 ans de service militaire. J'étais arrêté quand même quand j'étais jeune, pendant une journée, et ça a été très dur. Et le fait qu'avec la révolution, il y a eu beaucoup de gens qui ont été arrêtés. Donc cette arrestation collective, ça entraide les prisonniers entre eux. Après, pour supporter, il faut avoir de la chance de ne pas avoir un coup très dur, ne pas passer sur la chaise allemande, par exemple, à plusieurs fois. C'est selon les techniques de torture qui sont dans les centres de renseignement du régime.
La chaise allemande, c'est cet amoncellement d'humains, finalement, c'est ça, la chaise allemande?
Non,
j'ai vu un dessin, là, dans votre...
C'est une technique de torture qui était apportée par un Allemand nazi, Alois Brenner. Je m'excuse auprès de tous les Allemands, parce qu'on répète toujours la même chose. Un officier nazi qui a exfiltré l'Allemagne après la chute du Reich, et il a atterri en Égypte, puis il a s'enfui, il était recruté par le régime syrien, et puis il a introduit des techniques qu'ils ont utilisées en Europe. C'était la chaise, ça sert à casser le dos d'un prisonnier pour retirer des aveux, paralyser un prisonnier.
Alors justement, ces tortures, vous les montrez dans vos dessins, des dessins figuratifs qui racontent votre parcours de prison, mais celui de tellement d'autres aussi. Des milliers de dessins, vous dites que vous ne savez même plus combien vous en avez fait, tellement il y en a, c'est juste...
Ah oui, j'ai un grand archive de dessins qui parle de cette période... de la révolution en Syrie, puis la guerre, puis les détentions.
Et puis les détentions.
J'ai des petits dessins, des grands formats, des croquis, mais ça peut servir comme des archives. Ça, c'est voilà, par exemple, c'est une architecture, des dessins autour de la prison, l'espace en prison. Ça, c'est les toilettes qui est dans une chambre de. Où il y a 300 prisonniers, des fois il y a 150.
Alors je vais peut-être dire aux gens qui nous écoutent qu'on est en train de passer sous le chapiteau des images, donc ça va être un peu compliqué, mais ces images, on les retrouve dans le livre, je vous en parlerai à la fin. Avez-vous eu peur d'être déshumanisé dans cette prison par rapport à votre esprit artistique, à qui vous êtes? Parce qu'au fond, on vous fait faire des choses abominables, on vous torture. Est-ce que vous avez eu peur de perdre aussi votre âme, votre cerveau?
J'avais peur de me casser les mains, que mes mains soient cassées, que mon œil soit déchiré. Déjà, j'avais un tambal à l'oreille qui était déchiré, et puis des côtes. Mais en fait, on pense à soi-même, physiquement.
À vos outils de travail.
Oui, mais après, tout ce qui est artistique, je ne sais pas comment ça... On pense souvent à la peinture, au fil de temps dans les prisons, en regardant les prisonniers, les promiscuités des corps des prisonniers, puis les cadavres, puis les formes des gens. Il y a un truc d'artiste qui sort de... c'est pas du voyeurisme, mais un dessinateur, un artiste, il a toujours l'œil et la carte de mémoire qui est assez développée. Mais donc il regarde, il observe, il absorbe des images.
Pour pouvoir ensuite les reproduire une fois
sorti. Ou il fait des comparaisons avec d'autres artistes. Il regarde, ah puis tiens, ça ressemble à Velázquez, ça ressemble à
Daumier.
Un dessin de Goya.
Ouais. Donc ça, vous aviez
ça,
en tête.
On l'a vu dans tel film, ça on l'a vu dans... Une série de télé, oui.
On vous a aussi assigné des travaux abominables, comme déplacer des cadavres dans les fosses communes.
Dans les camions qui transportaient les cadavres.
Les transportaient dans les fosses communes. Comment est-ce qu'on vit ça? Qu'est-ce qu'on se met dans la tête pour bloquer ou pour survivre à ces images-là?
D'abord, ce qu'on pense de... Moi, ce qui m'est arrivé, c'est quand j'ai vu... le nombre du cadavre qui était écrit avec un feutre sur la poitrine.
Sur la peau, carrément.
Sur la peau. Et c'est de penser de, est-ce que je peux reconnaître le visage, puisqu'on a pas mal des gens qui sont disparus, soit de la famille ou des amis. C'est de reconnaître le visage du mort qui ont certes souvent des grimaces de souffrance. Et après, c'est d'éviter de toucher là où il y a du sang, il y a de la peau.
Vous parlez de reconnaître les gens. Votre femme, quand vous sortez enfin, dit qu'elle ne vous reconnaît pas, que vos poignets étaient détruits, que votre visage ne ressemblait plus à celui d'avant, que vous aviez perdu des dizaines de kilos. Vous voyez les gens changer, en fait. Vous voyez vous-même changer.
Ah oui. En prison, au bout d'une semaine, les gens commencent à avoir une autre forme. Au bout d'un mois, deux mois, trois mois, le nez, les joues qui commencent à sortir.
Et on ne reconnaît plus les gens.
Oui.
Alors, depuis une dizaine d'années, vous êtes en France et vous dites pourtant que vous êtes exilé depuis tout ce temps, que vous êtes un artiste sans terre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous l'avez dit dans une interview, je crois.
Oui, je crois le fait que j'ai vécu au moins trois sortes de migrations. Le premier, c'était en 93 pour venir continuer mes études en France, où j'ai passé trois ans. C'était une migration pour découvrir et faire des études.
Et voulu.
Oui, et après, en 2003, j'avais besoin d'argent et je suis parti dans les pays du Golfe, au Koweït. C'était une migration économique, où j'ai réalisé des fresques, des ornements. Et puis je suis rentré, je me suis installé à Damas, j'ai acheté un atelier, un appartement, en profitant du pétrodollar. Et en 2015, c'était la migration en France, où j'ai changé plusieurs appartements selon les conditions et les propositions du CADA. Et après, c'était... Puisque j'étais dans plusieurs prisons en Syrie, donc j'ai l'impression que ça fait une partie de mon parcours.
C'est-à-dire que les prisons sont des déménagements et un parcours d'exil.
Après la prison, mon style de travail a changé complètement. Donc la période du prison, on dirait que c'était comme si c'est une sphère de pensée, de prendre une distance de tout mon travail artistique avant toutes mes recherches en peinture et en dessin.
Vous avez fait quelques dessins en prison que vous avez déchirés parce que c'était dangereux finalement de dessiner. Vous aviez besoin de marquer sur le papier les choses pour qu'elles restent, pour qu'elles soient réelles.
Oui, c'était en prison municipale de Damas, la première fois que j'ai réussi d'avoir un stylo et un carnet de dessin, où j'ai commencé à faire, pour me rappeler, c'était la première réaction pour moi, c'est de dessiner la prison. Je l'ai déchiré parce que c'était trop dangereux. Mais après, j'ai commencé à faire des portraits pour les prisonniers.
Que vous avez pu leur transmettre, hein?
Exactement.
Depuis tout ce temps, vous avez beaucoup dessiné justement ces scènes de torture. Il y a quelque chose d'inhumain qui est la torture, mais il y a quelque chose d'humain dans vos dessins qui est cette espèce d'entraide entre les prisonniers. J'ai l'impression qu'il y a un regard d'un prisonnier sur l'autre, un geste qui va vers. Ça existe encore, ça, l'humanité entre les gens de mauvaise fortune.
Oui, l'expression sur le corps est ce que m'attirait aussi, c'est les expressions sur les visages. Il y a une période où je suis quand même un portraitiste. Donc les expressions du visage m'attirent beaucoup. Et puis le corps, comment il bouge, comment il réagit au cas de l'espoir, de la peur, de la souffrance.
Alors ça, je vais vous parler du livre qui est ici parce qu'il ne tient pas sur la table, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Il est aussi en dédicace ici. Je me suis perdue dans mes feuilles. Une chose importante dans votre exil, c'est que votre femme, vous m'avez dit quand on a préparé cette interview, ma femme, c'est un chapitre en soi. C'est elle qui récolte l'argent pour vous faire sortir plusieurs fois de prison. pour payer des rançons, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça, pour aussi vous permettre de sortir de la Syrie. Votre femme, c'est votre point d'appui, c'est votre, c'est quoi pour vous ? C'est évidemment votre épouse, hein, que vous aimez, comme vous l'avez dit. Mais...
Oui, ma femme, je l'ai rencontrée en 90, j'étais en troisième année aux Beaux-Arts, elle, elle était en deuxième année d'art, de littérature française. Et depuis, on ne s'est pas quitté. Et elle était enseignante de français et elle a un courage incroyable. Elle a osé de demander, de solliciter des gens qui connaissaient des officiers de faire des vrais deals pour qu'elle puisse payer une somme d'argent. Elle s'est fait arnaquer plusieurs fois. Elle est allée en prison au moins 48 fois quand j'étais prisonnier. Et puis là, une fois elle est en France, comme elle ne pouvait pas enseigner le français, il fallait avoir un diplôme. Et puis apparemment, elle n'avait pas tellement envie de revivre les histoires d'exil avec les exilés, parce qu'elle pouvait juste enseigner pour les exilés.
Le français, donc, langue étrangère, oui.
Exactement. Donc elle a choisi un chemin, c'est la métallurgie.
C'est fou quand même.
La soudure. Donc elle a fait une formation métallurgie, forgeonnerie, tuyauterie. Maintenant elle travaille dans les usines. Et c'est elle qu'elle m'a soutenu pendant les premières années ici pour que je continue à dessiner. Sinon, j'étais tout le temps poussé par le Pôle emploi. Il faut que vous travailliez, monsieur. Il faut que vous alliez. Là, il y a le Fleury-Michon. Là, il y a un pizzeria. Là, il y a la déchetterie. Bon, j'étais protégé par ma femme.
Incroyable.
Ouais, j'ai inventé plein de choses.
C'était important pour vous d'en parler, mais c'est vrai que c'est important de parler aussi de ceux qui restent à l'extérieur quand quelqu'un est emprisonné, et pour vous en particulier avec tout ce que vous avez vécu dans la prison. J'avais quand même une question sur ces dessins que vous faites, que vous répétez, il y en a vraiment d'innombrables sur la torture. Est-ce que c'est pas destructeur pour vous de revenir sans cesse sur cette matière, ou dévastateur ?
Pas du tout. Je fais des dessins. Je change des fois les formes des prisonniers. Là, en ce moment, je suis sur une série où il y a des animaux, surtout les poissons qui rentrent, mm-hmm. où il y a un prisonnier et un grand poisson sur sa tête. C'est un sujet qui a été traité pas mal de fois dans l'histoire de l'art, et même des artistes syriens qui ont travaillé sur ce sujet avec des instruments de musique. Mais le sujet, il est tellement riche pour moi aussi. Une fois que je change le point de vue, la perspective d'un prison, où j'ai d'autres formes à créer. Donc c'est un changement, c'est une création à nouveau.
Donc vous avez plus, quand vous faites ces dessins, ce regard d'artiste, de recherche créative, que ce besoin de revivre toujours le moment. C'est autre chose, c'est finalement créatif maintenant.
Bien sûr, non, c'est pas du tout. Juste l'acte de dessiner, ça fait travailler pas mal des neurones dans le corps humain. Mm-hmm. Donc ça ne détruit pas du tout. C'est comme le football ou la musique.
Attendez, je vais réfléchir à ce parallèle. Vous aviez aussi envie de témoigner de ce qui se passe en Syrie, de ce que faisait le gouvernement Bachar al-Assad. C'est aussi des témoignages, finalement, une manière de dire en France, là où vous vivez maintenant, ce qui se passe dans votre pays d'origine.
Ah, c'était une occasion pour moi de témoigner et continuer les manifestations qui ont été interrompues et avortées en Syrie. Et c'était aussi une manière de pouvoir parler français, améliorer mon français. Surtout quand j'étais étudiant en France dans les années 90, mon niveau, il était trop faible. Donc j'avais vraiment des problèmes pour expliquer mon travail, parler avec les profs. Et là, grâce à la révolution syrienne et grâce à la prison, je prends ma revanche de ma période de m'étouffement et de mon handicap en français pendant les années 90.
La prison a quelque chose de positif sur vous ?
Ah ben, je suis là en tant qu'artiste, c'est grâce à la prison. J'étais tout le temps autour de chercher un style à moi. J'avais une dérision incroyable après avoir fait 4 ans de Beaux-Arts et 3 ans en France, des lacunes culturelles, j'étais perdu entre tel artiste et tel artiste, les artistes syriens ou européens. Mais quel hasard, la prison a fait de moi un artiste qui est reconnu.
Et qui se reconnaît, si je comprends bien.
Il fallait que la Syrie soit détruite pour que je sois un artiste reconnu.
Je sais pas. Vous avez encore une sœur et une maman en Syrie, c'est bien juste? Elles sont toujours en Syrie?
Oui.
Vous avez peur pour elles, même après le départ de Bachar al-Assad?
La région, vous voyez comment il y a des missiles, des avions, des bombardements, des drones qui s'arrêtent.
Non, je ne vois pas de quoi vous parlez.
Sur Beyrouth.
Ouais. Non, je plaisante. Ouais. Enfin, excusez-moi de plaisanter, mais. Donc oui, vous avez peur. Vous avez l'intention de les faire venir ou vous avez l'intention qu'elles reviennent en France vers vous?
Elles sont venues plusieurs fois. J'ai maman qui a une carte de séjour de 10 ans. Mm-hmm. Donc elle est venue chaque 3 ans, elle fait un voyage. Et ma sœur, elle est venue. Mais elles reviennent. Elles sont trop attachées. Ils n'étaient pas recherchés, pas trop embêtés. Juste leur maison, elle était incendiée par le régime. Mais comme on a un autre appartement. Mais les gens, ils sont complètement... ma mère, elle a 80 ans... ou maintenant 84, mais elle ne voulait pas quitter la Syrie. Ouais.
Mais c'est un choix en même temps de vie qui est respectable, hein, même si ça peut vous faire peur, en quelque sorte, qu'elle ne quitte pas la Syrie.
Oui. Mm-hmm.
On arrive bientôt au bout de cet entretien. On a dit que peu de choses, mais on a bien vu votre regard artistique, un peu humoristique aussi parfois. Et quand vous parlez, j'aimerais dire qu'il y a une exposition de vos œuvres à Bordeaux demain matin avec une visite guidée par vos soins. Mais on peut y accéder à tout moment à cette exposition. Si vous allez dans le programme de Concertina, pour ceux qui sont présents ici sous le chapiteau, ou alors sur le programme sur le site internet pour ceux qui nous écoutent, il y a un code barre pour il faut s'inscrire à ces expositions. Et puis vous avez ce livre dont on a beaucoup parlé, un livre que vous avez coécrit en quelque sorte avec Denis Laffey, je vous laisse le tenir comme ça, j'aurai une main de libre. Somptueux livre avec des textes très très beaux et puis ces dessins justement qui retracent ces moments de prison avec des portraits magnifiques, un autoportrait aussi. Peut-être un mot, un autoportrait en couleur, alors que vous ne travaillez
c'était
pas
ancien,
tellement la couleur.
C'est des portraits pendant... juste dans les années 2000.
Vous étiez jeune encore.
J'avais mon atelier à moi, des palettes, des couleurs. J'étais pas encore exilé à chercher sur papier à dessiner. Oui.
Parce que vous avez beaucoup dessiné ensuite au stylo. Vous avez dit en prison, le stylo, c'était mon premier outil finalement. Mais après, vous avez continué à travailler au stylo.
On changeait d'un appartement à l'autre à Beyrouth et puis à Paris. Et donc le stylo bi, c'est avec sur papier, c'est un moyen très très utile pour tracer, tracer un moment ou un souvenir. On n'a pas besoin de l'eau, on n'attend pas, on n'est pas obligé d'attendre que le papier soit sec ou le papier soit ondulé. On peut le transporter tout de suite, le carnet.
Et le stylo, facile à transporter aussi.
Le stylo, oui.
Et on voit dans votre livre que vous revenez sur les dessins. Il y a des premières moutures, des deuxièmes moutures.
Après, j'ai retravaillé en gravure, même à la gouache, mes dessins en stylo bille.
Mais très peu de couleurs.
Maintenant, ça commence. J'utilise la gouache violemment.
Violemment?
Oui, je mets du jaune avec orange et vert et bleu.
Ça correspond à quoi? C'est le troisième artiste qui apparaît. Vous avez dit qu'il y avait un premier avant la prison, un deuxième après.
Avant la prison, il y avait 15 ou 20 artistes.
Ah oui, parce que vous cherchiez, c'est vrai.
Oui.
Oui. Et maintenant, vous avez trouvé cet appel de la couleur. Et il y en aura certainement d'autres après, d'artistes, j'en suis sûre. Merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné avec des mots, vous, l'homme de l'art visuel, du dessin, de la gravure. C'est très intéressant de vous entendre aussi avec vos mots. Votre livre, on le rappelle, est à la librairie de Concertina. On peut le trouver à Paris, ailleurs, dans des librairies ou faut le commander sur le net, ou comment est-ce qu'on peut y accéder?
Plutôt sur le net maintenant.
Plutôt sur le net, très bien. Alors, les c'est éditions épuisé. Elviso.
Elviso, oui.
Très bien. Édition Elviso, le livre s'appelle Graver la mémoire de Naja Al-Bukai et Denis Lafay.
Dialoguer avec Boris Cyrulnik.
Oui, il y a aussi Boris Cyrulnik. Parce qu'il parle de la résilience, évidemment, et c'est un mot qui, même s'il est galvaudé souvent,
même
quand
moi,
ça vous
si
concerne, il n'est pas galvaudé.
Fois,
hein.
Ouais, ouais.
Il a tout à fait sa valeur avec vous. Merci beaucoup.
Merci, merci.
Je rappelle aux gens qui sont sous le chapiteau que demain, nous aurons un nouveau grand entretien à 12h30 avec une autre personne qui est aussi un ancien détenu qui travaille avec des détenus, qui a aussi fait de son passage en prison quelque chose de créatif et de tourné vers l'autre. Merci beaucoup aux auditeurs des différentes radios locales qui nous entendent, aux auditeurs, auditrices de Ici l'Ombre, la radio éphémère qui accompagne Concertina. Et merci bien sûr à vous, sous ce chapiteau, il doit faire à peu près 98 degrés, mais les propos sont tellement intéressants qu'on assume cette chaleur. Merci beaucoup à tout le monde et merci à la technique.
Ici l'Ombre, le grand entretien par Laurence Bolomé.